Cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 9 avril 1987.
Continuons cette question de la philosophie du mariage comme le premier moment de la philosophie politique. Après avoir vu toutes les transformations que de fait, au plan politique, la famille a pu connaître, on voit qu'aujourd'hui, elle est réduite, j'allais dire, à sa plus simple expression, puisque c'est en premier lieu l'amour des conjoints. Le don des corps et la possibilité de la fécondité. Mais tous les aspects du rayonnement de la famille qui existait au point de départ sont beaucoup plus détachés. Oui, on pourrait ajouter aussi que tout l'aspect de la tribu, les liens des grands-parents qui peuvent exister dans certaines civilisations, lorsqu'il s'agit de notre culture européenne ou occidentale, complètement disparue aussi. Vous savez, la famille est très allégée. Elle ne peut exister qu'en fonction de cet amour libre des conjoints. En vue de la fécondité, comprenons bien, impliquant la fécondité. Puisque je crois qu'il faut bien distinguer la fin première de l'amour. L'amour a en soi sa propre finalité. Et deuxièmement, cette fin est fait qui est des enfants. Alors, se poser la question donc de la fidélité, l'indissolubilité du mariage est-elle philosophiquement justifiable? Peut-on la montrer du côté purement philosophique? Alors, je crois que tout repose sur la qualité de l'amour des conjoints, avec le don des corps qui vient confirmer ce qu'il y a de tout à fait particulier vis-à-vis de cet amour, qui fait que la fidélité est liée intrinsèquement à cet amour d'amitié. Il y a une espèce de responsabilité mutuelle, étant donné que cet amour d'amitié est incarné dans le don des corps. Je ne peux pas ne pas prendre cette responsabilité mutuelle de l'un par rapport à l'autre vis-à-vis des dons des corps, et donc implique quelque chose qui va plus loin que la simple amitié. Déjà dans la simple amitié est impliquée la fidélité. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un pour un temps. Quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime et que son amour porte sur sa personne, cet amour dure tant que la personne de l'autre existe. On en sera libéré le jour de sa mort. Mais autrement, cette amitié dure tant que la personne humaine. Parce qu'il y a un don mutuel. Alors, il peut se faire évidemment, lorsqu'il s'agit d'amitié, de jeunes, que lorsqu'on prend un peu plus conscience de ce qu'on est, on dit oui, j'ai dit ça quand j'étais jeune, mais maintenant je comprends mieux. On reste bon camarade, et puis c'est tout. Oui. Je parle d'une amitié au sens plénier, quand on est parfaitement libre de ce choix. Parce qu'il y a des quantités d'éléments qui sont secondaires. Donc l'amour d'amitié implique une fidélité. Je ne dis pas inviolabilité du mariage, parce que je crois qu'il faut me dire fidélité au point de vue philosophique. Inviolable se dit au point de vue théologique en fonction du Christ. Tandis que fidélité se dit au point de vue humain. Alors on peut se poser la question. Et puis alors, la question des enfants vient. bien montrer de plus cette responsabilité mutuelle qui fait que dans l'éducation et dans la responsabilité vis-à-vis des enfants, on doit fidélité. Mais peut-on dire que cette fidélité, elle n'est pas absolue?
Si j'aime l'autre pour lui, et que par là,
là, j'atteins un certain absolu. Je comprends que le mariage a une fidélité qui dure tant que les deux personnes existent. Qu'il y ait fécondité ou pas fécondité, que les enfants soient casés ou pas casés, ça n'a aucune espèce d'importance. La parole donnée, dure tant que le conjoint existe. Je crois qu'on peut aller jusque-là au plan philosophique et de comprendre qu'il y a donc un absolu dans l'amour d'amitié. C'est très important, comprenez ça. Et faut essayer d'en voir l'évidence. Philosophiquement, vous pouvez l'affirmer à des gens qui n'ont pas la foi. Si c'est pas vrai philosophiquement, vous n'avez pas le droit de l'affirmer. Tandis que c'est vrai philosophiquement, vous pouvez l'affirmer. Vous n'allez peut-être pas les convaincre, parce qu'ordinairement, il y a la passion qui joue. Mais au moins, ils entendront un témoignage véridique. Alors, je crois que c'est vrai, étant donné que l'amour d'amitié atteint la personne humaine et qu'elle est aimée pour elle-même. Et donc, la personne humaine est un bien spirituel absolu qui ne peut pas être relativisé. Mais la personne humaine, le jeu, n'est pas une chose, mais c'est qu'un certain absolu. Modalité de vivre ça. C'est-à-dire qu'on vivra mieux cette amitié si on vit chacun de son côté et qu'on a une journée par semaine de vie commune. Le reste du temps, on travaille chacun, on est très heureux de se retrouver une fois par semaine. Personne ne peut empêcher cela. Si de part et d'autre, on est d'accord en vue de sauvegarder une amitié intense. Ça peut très bien se faire. On est fatigué de vivre ensemble. C'est fatigant de vivre ensemble. Toujours la même tête. Et puis tu vieillis mal. J'avais pas prévu ça. Il y a des choses qui vont pas. Le mauvais caractère, les mauvais plis que j'avais deviné un tout petit peu au début s'accentuent. Alors ça devient insupportable. C'est vrai, ça. Le vieux garçon pousse. Et vieillit plus vite que ne grandit l'ami. Parce que c'est une course en, dans les deux sens. Et d'un côté, ça dégringole, et d'autre côté, ça monte. Or, ordinairement, quand on est jeune, ça monte plus vite. Mais quand on commence à vieillir, ça monte plus lentement, et ça dégringole plus vite. Ça explique les quantités de choses. Et là, on comprend très bien la séparation. Une séparation de bonne entente qui fait qu'on se retrouve régulièrement plutôt que deux. Philosophiquement parlant, il n'y a aucune objection à ça. On reste unis, on est donnés l'un à l'autre. Mais la modalité de l'amour d'amitié prend des raisons très différentes. Et c'est là où on ne doit jamais juger de l'extérieur. Quelquefois, c'est la seule façon de sauvegarder un amour d'amitié qui semble se diminuer. Évidemment, quand il y a des lois qui empêchent cette séparation, ou qui font que cette séparation se transforme en nécessairement en divorce, on doit tout faire pour que le divorce n'existe pas. Parce que le divorce implique une séparation et une remise en liberté des deux côtés. Ce qui est contraire à l'amour d'amitié. Tandis que la séparation n'est pas une remise de liberté de part et d'autre. Et donc ça peut se comprendre. Mais je crois que ça, c'est très important de saisir ça. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. S'il y a d'autres questions, dites-les que vous vous posez par rapport. politique et au point de vue philosophique. Pourrait se poser la question, est-ce qu'au point de vue purement philosophique, on peut justifier la monogamie? Ou est-ce que la polygamie et la monogamie sont uniquement des questions de convention? Des questions qui peuvent se poser et qui sont assez délicates et assez difficiles. Il est évident que ça dépend énormément des coutumes. David avait deux femmes. Et pourtant, c'est déjà assez évolué au temps de David. Cependant, je crois qu'on peut dire qu'au point de vue purement naturel, au plan philosophique, tout tend vers la monogamie.
Jeune,
par relation familiale, Oui, mais alors, à ce moment-là, il n'y a pas de mariage, au fond. Il y a un mariage légal, et puis c'est tout. Si le mariage repose essentiellement sur l'amour d'amitié de l'un et de l'autre, et tu t'en décores, s'il n'y a pas cet amour d'amitié, il y a deux personnes qui s'unissent en face du maire. Reconnaît la nullité du mariage. Elle reconnaît que le consentement des époux, pour une raison ou pour une autre, n'est pas total. Il peut se faire qu'au point de vue purement et seul, c'est l'Église qui reconnaît qu'il n'y a pas eu de mariage. Au plan naturel, ce que l'Église fait, l'État pourrait le faire. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un petit tribunal qui puisse juger ça. C'est pas la fantaisie des deux, puisqu'il suffirait d'une mauvaise humeur, mais qu'il y a un tribunal qui juge. Puisque l'Église, en discernant qu'il n'y a nullité du mariage, reconnaît qu'il n'y a pas eu de mariage naturel. Ce que l'Église fait, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire. Oui. Donc, c'est pas du tout impossible, votre question. C'est que dans un pays où il devrait y avoir, au fond, c'est ce qui existe un tout petit peu aujourd'hui. Mais alors, c'est très étendu jusqu'au divorce. Et il pourrait y avoir des raisons très légitimes. Alors, en réalité, socialement, ce serait un divorce. Mais en réalité, c'est pas un divorce. Ce serait tout simplement dire il n'y a pas eu de mariage. Je crois que vous voyez bien ça. Oui.
Le cas d'un mariage forcé à cause d'une naissance inattendue.
Vous savez ce que disait Marthe? J'ai posé le cas une fois à Marthe. Marthe a dit on ne fonde pas un foyer sur un péché. C'est très fort. Parce qu'ordinairement, ce qui se passe, c'est qu'on veut tout effacer très rapidement. L'enfant arrivera un petit peu vite, évidemment, ça fait rien. On n'en parle pas. Marthe, j'ai demandé une fois, parce que j'étais à Châteauneuf, et je me trouvais devant un code particulier. Et on m'avait demandé de pouvoir demander à Marthe un peu ce qu'elle pensait. Marthe était comme ça. Net. Alors j'ai dit, elle me dit, qu'on attende que l'enfant naisse. Ils pourront retrouver l'un et l'autre leur liberté. Et verront s'ils doivent se marier. C'est des paroles de Marthe qui, j'y réfléchis, c'est très très juste au point de vue moral. Mais au point de vue prudentiel, il peut se faire des circonstances où on ne peut pas agir comme ça, en faisant attention. C'est pas un principe premier qu'il faut appliquer absolument. C'est une lumière très importante et qui était très importante dans le cas posé. Universaliser ça au plan philosophique, il faut toujours dire qu'il y a la prudence. Vous savez, au fond, des fiancés, ils étaient déjà fiancés, ils s'aimaient déjà, ils avaient décidé de se marier. Alors, qu'on hâte le mariage à cause de ça, c'est autre chose. La décision était prise avant. Tandis que Marthe prenait le fait de quelqu'un qui n'était pas décidé à se marier du tout. Et puis que de fait, il y a eu la vie qui attendait un gosse. Et donc, on force la main, vous voyez. Je dirais, ça arrive, hein. La subtilité. ma part est très fort, parce qu'il exige de regarder la chose nettement. On doit se choisir en toute liberté. Ça, c'est le choix amical.
Quand il y a des fiancés qui s'aiment d'un amour spirituel et non passionnel, peut-être rarement, ça arrive.
Oui, ça arrive.
Et qu'on découvre avant le mariage qu'il y en a un des deux qui est stérile, est-ce qu'on doit leur conseiller de...
Ils doivent le savoir. Ils doivent le juger. C'est tout. Il n'y a pas de principe. C'est une question de prudence. Oui. C'est une question de prudence, ces questions. Parce que, vous voyez, ce sont des modalités différentes sous lesquelles l'amour d'amitié se réalise. L'amour d'amitié ne se réalise pas selon une seule modalité. Ça, c'est très très important de se rappeler. J'allais dire, dans chaque foyer, l'amour d'amitié a sa physionomie propre. C'est pour ça que c'est pas tellement bon, quelquefois, que des jeunes foyers se disent tout. Moi, j'avoue que j'aime pas beaucoup. Parce que je crois que prudentiellement, c'est pas bien. Il y a toujours un secret dans l'amour d'amitié. Et c'est pas bon que ce secret soit violé d'une certaine manière, même avec le consentement mutuel. Il y a quelque chose qui se perd. Parce que tout amour d'amitié implique un secret. Et ce secret fait qu'on est lié l'un à l'autre. Et qu'il y a un silence porteur de ce secret qui nous lie encore plus. Que chaque foyer a sa manière particulière de réaliser cet amour d'amitié. Et ça, je dirais que le prêtre, qui peut-être, pas toujours dans certains cas, mais peut-être confident d'une quantité de choses au point de vue de l'amour d'amitié, doit comprendre cela, que ce n'est pas lui qui dirige l'amour d'amitié des deux conjoints. Le prêtre a grâce d'état par rapport à la conduite du Saint-Esprit sur l'un ou sur l'autre. Mais le prêtre n'a pas grâce d'état de gouverner et de modifier selon sa conception à lui ce qu'on représente cet amour d'amitié. Il faut faire grand, grande attention. Il faut être beaucoup plus discret qu'on ne le pense. C'est beaucoup mieux que d'être trop dirigiste dans ce domaine-là. Même si on prétend avoir une grande expérience de cas multiples et divers, hein, c'est toujours très délicat. L'amour d'amitié fait une unité avec un secret. Et on ne doit pas interroger dans ce domaine-là. Jamais prendre l'initiative d'interroger. On ferait des gaffes de premier ordre et on fait du mal. Combien de fois j'ai entendu des couples parlant de tel ou tel et quittant ce prêtre parce que justement ce prêtre avait posé des questions indiscrètes. Et alors ça scandalise. Et je comprends très bien que ça scandalise. Parce que si on pose des questions indiscrètes, c'est un peu une curiosité, vous voyez. Quand on aime vraiment quelqu'un, on lui pose pas de questions. Parce qu'on respecte le silence, on respecte l'amour d'amitié qu'il a. On écoute. Et si on vous pose des questions, on répond le mieux possible. Mais on ne prend pas l'initiative, parce qu'on n'a pas à prendre l'initiative dans ce domaine. Ce sont les époux qui ont répondu, oui, je te veux Caroline pour femme. N'est-ce pas ? Et l'autre, il a répondu. Mais c'est pas le prêtre qui a pris l'initiative. Le prêtre a simplement béni. Eh bien, ça, c'est le signe que ça dure toute la vie. Et toute la vie, c'est comme ça. Bon. Maintenant, voyons l'autre aspect sûr, ce corps représente l'amitié de l'époux et de l'épouse. L'État ne peut pas interdire certaines amitiés à cause d'infirmité ou à cause de stérilité. L'État n'a pas à intervenir dans la question du nombre des enfants. Le nombre des enfants regarde strictement les deux époux. Et là encore, le prêtre doit être très très prudent dans son conseil. Il renvoie les époux l'un à l'autre. Pas intervenir. Qu'il plaide une famille nombreuse, très bien, et qu'il fasse attention. Oui, et l'État n'a pas à intervenir, ça c'est très très net. Donc, si l'État donne des lois dans ce domaine-là, ça n'oblige pas sous conscience. Vous savez qu'en Chine, il n'y a qu'un seul enfant que l'État reconnaît. Le premier. Les autres, l'État ne le reconnaît plus. Donc on doit les cacher. Si on en a. C'est terrible, ça. Donc ça, c'est pour montrer le droit inviolable et sacré de l'époux à l'égard de l'épouse. C'est un droit inviolable et sacré. Comme la procréation relève d'une alliance sacrée avec Dieu, eh bien ce domaine est sacré, même si on ne croit pas à Dieu. L'amour d'amitié est quelque chose d'absolu sur lequel l'État n'a pas à intervenir. Ça, vous êtes farouche dessus. Parce que c'est supprimé. C'est supprimé ce qu'il y a de plus sacré dans l'homme. Le choix d'un ami. Donc là, c'est net. Je n'entre pas ici parce que je ne crois pas qu'il faut en être traité. Toute la question qui serait intéressante au point de vue proprement philosophie du mariage, toute cette intervention de ce que dit l'Église dans ce domaine-là, comment le philosophe doit-il le juger? Oui. À propos de la pilule, à propos des derniers précisions de l'Église pour la fécondité. Je crois qu'un philosophe chrétien doit chercher au plan philosophique à montrer que ce que dit l'Église est vraiment philosophiquement soutenable. Quand il s'agit du domaine de la famille, quand il s'agit de la procréation, peut-être que le philosophe ne trouvera pas d'argument. C'est possible. L'Église a un regard d'aigle, comparativement au regard du philosophe, qui est le regard du petit poulet. Et donc, c'est très possible que le philosophe ne verra pas. Il dira, ce que je peux vous dire, silence. Et je crois que c'est très sage, que c'est très grand. Il tournera autour. Et puis il essaiera de trouver un théologien ou un philosophe qui lui donnera les raisons. Mais je crois qu'on peut toujours justifier toutes les décisions de l'Église qui sont données pour les croyants, mais qui sont profondément humaines. L'Église se fait la gardienne de l'amour humain. Comme l'Église se fait la gardienne de la fécondité, elle se fait la gardienne de l'amour humain. Pour montrer combien cet amour humain est grand et absolu. Et combien il a en lui-même sa propre justification. Donc là, il y a des questions très importantes aujourd'hui. Et qu'au plan philosophique, on doit pouvoir... On en a parlé avec le jugement d'existe, le jugement de sagesse, sauf que je ne reviens pas là-dessus. S'il y avait des questions, vous me les poserez, mais je ne reviens pas là-dessus. Pour ne pas tout le temps retraiter ces questions. La grosse question, après le mariage, comme cellule fondamentale, par rapport à l'État. On doit pouvoir tout de suite affirmer que la famille est responsable de l'éducation de ses enfants. Ça, c'est sûr. C'est pas l'État qui a mis au monde les enfants. On sait jamais aujourd'hui. Hein. C'est pas l'État qui a mis au monde ses enfants. Et donc, comme c'est pas l'État qui a mis au monde ses enfants, c'est pas l'État qui est responsable de la première éducation. Et quand l'État veut être responsable de cette première éducation, l'État usurpe. Tentation de tout État socialiste extrême. Je crois pas qu'en France, actuellement, il y a un danger de ça. On sait jamais. Est-ce que ça va couvrir beaucoup plus vite qu'on y pense? Je vous ai donné l'exemple quand d'Israël, les premiers kibbutz religieux faisaient que les enfants étaient d'abord et en premier lieu pour la communauté. Qu'on les prêtait aux parents 2 heures par jour. Quelques années plus tard, je ne sais pas combien, 10 ans après, je suis repassé, je demandais. On m'a dit qu'on avait laissé les enfants jusqu'à 14 ans aux parents. Et qu'à 14 ans, étant donné les tensions entre les enfants et les parents, l'État prenait les enfants et les éduquait. Dans le kibbutz. C'est un bon espagnol qui m'a dit ça. Quand il m'a dit ça, j'ai dit je reviendrai dans 10 ans. Parce qu'il savait très bien qu'à 10 ans, on faisait autre chose. Alors j'ai dit, je reviendrai dans 10 ans. Il a souri. Il a très bien compris. C'était un Espagnol, donc il devait être catholique. Mais il était revenu à sa première religion, ses ancêtres. Et là, il avait quelque chose en lui, donc, qui restait. Comme un attachement, il comprenait très bien. Alors, il faut se demander si à 14 ans, l'État a le droit ou si c'est une usurpation. Ça, c'est une question très importante au plan philosophique et très intéressante. Au point de vue maternel, donc la première enfance, il est bien évident que l'État n'a pas le droit. Vous allez me dire pourquoi? C'est parce que le tout petit naît dans un état de telle fragilité qu'il a absolument besoin de ses parents et de sa mère et de son père et qu'il a besoin d'un climat familial, donc petit frère et des petites sœurs. Ceci pour la première éducation, ça me semble très très net, c'est un droit naturel. Le droit du kangourou. C'est absolument, absolument naturel. Et la première maison, c'est ça. Il faut que ce soit gardé. Et c'est un droit justement sacré. La première éducation de la mère, éducation du cœur, ce que je vous disais ce matin, puis éducation de l'intelligence. Et c'est les parents qui sont responsables. Et c'est les parents qui doivent pouvoir éduquer les enfants selon leur point de vue. Dieu respecte cela. Et donc l'État doit le respecter. Évidemment, un État laïque qui ne sait plus ce que c'est que Dieu. Alors on ne peut le justifier qu'au point de vue de l'amour d'amitié et au point de vue de la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. Donc les arguments ne sont jamais très très forts. Mais est-ce qu'il y a toujours du pour et du contre? C'est un droit naturel, je crois. C'est quelque chose d'absolument. Mais c'est pas si complexe que ça. Quand il y a attitude religieuse et qu'on peut regarder l'attitude religieuse, alors ça devient beaucoup plus fort. Mais un point de vue purement laïque, c'est pas commode. Parce qu'un point de vue laïque, on regardera l'efficacité. Alors c'est en montrant qu'une fois que l'efficacité est complète, montrer que c'est faux. Qu'il doit regarder plus que ça, parce qu'on doit éduquer une personne. Et étant donné l'importance de cette première éducation, jusque 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faut une éducation.
permanente. Il faut un milieu. Et seule la famille peut donner ce milieu. Je crois que ce serait le premier raisonnement le plus important à donner. L'argumentation la plus forte. L'enfant, s'il n'est pas aimé avec suffisamment d'amour, s'il n'est pas enveloppé d'un amour suffisamment fort, l'enfant ne peut pas se développer autant qu'il le pourrait. Et l'intelligence elle-même ne s'éveille pas. Là, il y a des preuves à l'appui. Il faut le savoir, du côté de la Russie, du côté d'Israël. Puisqu'il y a eu la même expérience du côté de la Russie et du côté d'Israël. Je ne sais pas si la Chine a fait cette expérience. Ça serait facile à savoir. C'est toujours intéressant de voir ça. Parce que de voir que ça se voit l'échec et qu'au bout de quelques années, on revient dessus. La question plus délicate, c'est de savoir si à partir de 14 ans, il y a usurpation de l'État de prendre les enfants. Pour les éduquer. Et donc les spécialiser. Et donc les orienter dans tel ou tel sens. Je ne sais pas si l'État, à ce moment-là, par exemple, sélectionne pour qu'il y ait de futurs rabbins. À partir de 14 ans. J'ai pas poussé mon enquête jusque-là. J'aurais dû la pousser. J'ai pas avancé. J'ai pensé après coup. J'ai dit, j'aurais dû poser cette question-là. Ça l'aurait ennuyé. On prépare des physiciens, on prépare des matheux, on prépare des hommes pratiques, des hommes très bien. Mais un rabbin. Parce que vous savez, qu'à la télévision, il y a eu, il y a pas si longtemps, je ne l'ai pas vu, mais on me l'a rapporté. On a montré la crise des prêtres. Puis après, il y a eu la même chose pour les protestants, pour les pasteurs. Et il y a eu un rabbin qui a dit, c'est la même chose pour nous. Autrement dit, on voyait qu'en Europe et en France, la crise des prêtres était parallèle à celle des pasteurs et celle des rabbins. C'était intéressant à noter parce que ça montrait que c'était quelque chose de très général. Ils n'ont pas poussé leur conclusion, ils n'ont pas cherché pourquoi. Moi je dirais à cause de l'éducation. Purement laïque, telle qu'on la donne, est une éducation qui éteint les germes religieux. Et si ça éteint les germes religieux, toutes les virtualités religieuses qui sont normalement dans le cœur d'un enfant, dans le cœur d'un adolescent, fait que l'orientation vers le sacerdoce, vers le pasteur, vers être rabbin n'a plus de sens. Alors, il y aura toujours des conversions plus tard, vocation tardive, c'est sûr. Mais c'est pas la plus.